Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 avril. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le confinement, il va durer et se durcir. Avis tranché hier soir du conseil scientifique qui appelle à la prolongation des mesures. On voit ça Agnès, avec vous après les autres titres.
Une nouvelle intervention demain soir du chef de l'État qui était hier en Seine-Saint-Denis. Pas de déconfinement sans test sérologique, des tests déjà pratiqués dans l'Oise, nous y seront. L'appel à la grève de la CGT pour alerter sur le manque de protection des salariés du commerce. Aux États-Unis, la communauté afro-américaine, première victime du coronavirus. Et puis Bernard Hinault, qui n'exclut pas l'annulation du Tour de France, nous l'entendrons.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Imaginez Nicolas, imaginez un été sans festival d'Avignon. C'est une sérieuse possibilité à cause de la pandémie. Et pourtant, les organisateurs veulent y croire encore. Ils annoncent cet après-midi la programmation de l'édition de l'été. Olivier Pie, le directeur du Festival d'Avignon, sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, à 8h20, Léa, dans le grand entretien de la matinale, nous recevons aujourd'hui deux économistes. Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, et Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter. La barre symbolique des 10 000 morts a été franchie hier en France, avec 597 décès au cours des dernières 24 heures et plus de 7 000 malades toujours en réanimation. Le pic de l'épidémie n'a pas encore été atteint, a martelé hier le ministère de la Santé. Le confinement va durer, a renchéri le Premier ministre. Et hier soir, le président du Conseil scientifique, qui conseille Emmanuel Macron, le professeur Delfraissy, a rendu un nouvel avis sur l'épidémie, un avis qui tient en quelques mots. Restez chez vous.
On est encore pour plusieurs semaines avec le confinement, parce que vous savez que le confinement a un double objectif. D'une part, permettre au système de soins de faire face au nombre de patients en situation grave et donc d'avoir une cohérence entre le nombre de lits de réanimation et les formes graves. Et il a un deuxième objectif qui est de faire baisser la circulation du virus de façon à pouvoir, quand on sortira du confinement, ce qui n'est absolument pas d'actualité, je le répète, eh bien avoir affaire à un nombre de cas limité et pouvoir cette fois-ci utiliser alors toute une nouvelle stratégie se reposant sur les tests, sur le suivi numérique, etc. Le confinement commence peut-être avec une grande prudence à avoir une action sur cette interaction entre le nombre de formes graves et la capacité du système de soins à résister. On a plutôt l'impression que c'est en train de se produire en région parisienne, mais il est impératif de poursuivre le confinement sur plusieurs semaines et avec des mesures très strictes.
Le professeur Delfraissy hier soir sur France 2, des mesures effectivement de plus en plus strictes. Pas de jogging entre 10h et 19h à Paris, ni dans le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne, les Yvelines et les Hauts-de-Seine. À Béziers, tous les bancs publics ont été démontés pour éviter aux promeneurs de s'arrêter. Et à Marc-en-Barœul, cracher dans la rue ou abandonner son masque et ses gants est désormais passible d'une amende de 68 euros. Et puis certaines municipalités imposent le port du masque. C'est le cas à Sceaux, en banlieue parisienne. Il est plus précisément obligatoire depuis ce matin, de se couvrir le nez et la bouche pour sortir de chez soi. Reportage dans les rues de Sceaux de Timur Özturk, dûment masqué et à bonne distance de ses interlocuteurs.
Le maire lui-même veut montrer l'exemple. Philippe Laurent ne sort plus sans masque depuis le début du confinement.
Je porte un masque artisanal que j'ai fabriqué, avec un bout de tissu, une feuille de sopalin donc à l'intérieur et puis deux élastiques.
La confection prend quelques minutes à peine, assure-t-il. Un tutoriel est consultable sur le site de la mairie. Pas si évident pour Clémence, une habitante qui n'a encore qu'une écharpe sur le nez.
Personnellement, j'ai trois enfants, je travaille à la maison et je m'occupe d'eux en même temps. Donc non, ce genre de tuto, pas encore, d'où l'écharpe à ce stade.
Pour autant, elle est d'accord avec l'arrêté de son maire.
Je trouve que c'est une très bonne décision, ça aurait dû être fait plus tôt.
Annabelle non plus n'a pas de masque alternatif. Et ce qu'elle réclame, ce sont plutôt de vrais masques médicaux.
Hier encore, je suis allée à la pharmacie, comme je suis aide à domicile justement, pour avoir un masque, parce que je travaille avec des gens âgée, même très âgée, donc une de 96 ans. Et on m'a répondu, on n'a pas le droit de vous le donner.
Pour Philippe Laurent, le maire, il faut faire 100 pour le moment.
Quand il y en aura, ben on le mettra, mais tant qu'il n'y en a pas, au moins on fait un minima. Vraiment, le geste qui consiste à protéger son nez et sa bouche, qu'on peut faire avec à peu près tout. C'est un geste de responsabilité citoyenne qui m'apparaît important d'avoir de manière systématique.
La mairie va tenter d'appliquer l'arrêté sans verbaliser, mais en cas d'abus, les contrevenants devront payer 38 euros.
Et puis en Seine-Saint-Denis, les commerces seront désormais fermés entre 20h et 6h du matin. Port du masque, distance entre les personnes, des gestes barrières que n'a visiblement pas respecté le chef de l'État qui s'est rendu justement hier en Seine-Saint-Denis, un département particulièrement touché par l'épidémie. Emmanuel Macron a rencontré des soignants à Pantin et des habitants à La Courneuve. Cyril Gradiani.
En visitant une maison de santé à Pantin, Emmanuel Macron s'attendait certainement à être interrogé sur la pénurie de masques. Ça n'a pas raté.
On n'est pas en sécurité. Donc on a essayé effectivement d'avoir des solutions un peu de fortune, mais
il faudrait être clair, les plans les mieux pensés n'avaient pas envisagé que la Chine serait touchée, tous les pays en pic en même temps, et que ce qu'on pensait sans valeur il y a 6 mois ou 1 an, on pensait que c'était le truc le plus idiot à faire, d'un seul coup, on serait en rareté.
En revanche, provoqué malgré lui un attroupement dans ce quartier de Seine-Saint-Denis, ça il ne l'avait pas prévu. Le président tendait bien l'oreille, est obligé de rappeler aux habitants agglutinés à quelques mètres de lui les gestes barrières.
Je sais que c'est dur, mais il faut tenir, il a raison. Voilà, respectez bien.
Des images calamiteuse pour la communication de l'exécutif et du gouvernement. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. C'est le message passé par Emmanuel Macron, éructe un de ses amis. Il va falloir qu'il parle au plus vite pour faire oublier cela, supplie un ténor de la majorité.
Et justement, Macron va prendre la parole demain soir à 20h. Ce sera la troisième intervention du chef de l'État depuis le début de la crise. Le confinement va donc durer encore plusieurs semaines et l'une des clés de la sortie sera l'organisation de tests sérologiques à grande échelle pour savoir quel pourcentage de la population française a été touchée par le Covid-19. Ces tests sont en cours d'homologation scientifique mais sont déjà pratiqués dans certains laboratoires, notamment dans 4 labos Biolam de l'Oise, à Amiens et Beauvais. Les patients peuvent prendre rendez-vous et savoir au bout de quelques jours s'ils sont immunisés. Reportage de Thibault Lefebvre.
Un rapide questionnaire.
Vous avez eu des symptômes ou pas ?
Suivi d'une prise de sang.
Serrez bien fort le poing, voilà.
Et en moins d'une dizaine de minutes, le test est terminé. Masque sur le visage, Mohamed est venu pour dissiper ses doutes.
J'étais malade 15 jours, moi. J'avais eu la toux. J'ai été au moins 4 fois chez mon médecin. Et je veux me rassurer, comme ça je vais être tranquille.
Et Mohamed n'est pas le seul à vouloir se rassurer.
Laboratoire DL, je dis bonjour.
Julie est agent d'accueil.
Ça n'arrête pas. Là, les rendez-vous, on est sur le 4 mai, donc c'est du non-stop.
Les 4 établissements Biolam peuvent accueillir pour le moment 500 personnes par semaine. Le sang des patients est testé 2 fois, puis éventuellement une 3e, 3 semaines plus tard, en cas de résultat négatif. Et le laboratoire a de quoi voir venir. Johan Joly est le médecin biologiste en charge des prélèvements.
Nous, on avait déjà anticipé en se disant il y a les tests de sérologie qui vont arriver. On a commandé auprès de nos fournisseurs des quantités importantes. Actuellement, on va avoir des capacités de faire une centaine de tests par jour. De semaine en semaine, en fait, on va être amené à avoir une cadence un peu plus importante. Parce que là, ce qu'on met en place cette semaine, ça va être repris par l'ensemble du territoire national, en fait.
Le test coûte pour le moment 25 euros. Il n'est pas remboursé. Johan Joly est persuadé que très vite, il sera pris en charge par la Sécurité sociale.
Reportage de Thibault Lefebvre.
France Inter, il est 7h08. La protection des salariés, Agnès, obligés de se rendre sur leur lieu de travail, reste un sujet d'inquiétude.
Et la CGT appelle à une grève généralisée dans les activités de commerce et de services à partir d'aujourd'hui. Le syndicat dénonce le manque de protection dans certaines entreprises. La situation est critique. C'est le cas sur le site de Fleury-Mérogis de la société XPO. 6 cas de Covid-19 sont recensés et désormais un décès. Sarah Lemoine.
L'annonce a tétanisé les 230 salariés du transporteur XPO à Fleury-Mérogis. Une de leurs collègues est morte dimanche du coronavirus. Elle travaillait depuis 17 ans sur cette plateforme logistique qui alimente une trentaine de magasins Carrefour en produits frais. 6 autres salariés sont malades. L'un d'eux a contaminé sa famille. Son épouse témoigne.
Mon mari est rentré du travail. On lui a dit qu'il y avait un cas de Covid le mardi. Premier signe. Courbatures partout. Maux de tête, mal au ventre, vomissements, etc. Une semaine après, c'est moi qui suis tombée malade. Maman qui habite chez nous a été contaminée. Et fin de semaine dernière, ça s'est aggravé. Elle est sous assistance respiratoire au niveau de l'oxygène.
Selon la CGT, la direction n'a pas réagi assez vite. Elle a attendu l'annonce du premier cas le 19 mars et un droit de retrait massif des salariés pour fournir tous les équipements de protection. À la CFDT, la déléguée Justine Gobier a écrit plusieurs fois à l'inspection du travail. En vain, elle laisse éclater aujourd'hui sa colère.
Je suis un pétard. J'ai dit que l'État nous a demandé de travailler pendant que tout le monde est en confinement. sans nous donner les moyens sanitaires pour aller exercer notre métier. Il nous a laissé en pâture. L'État a abandonné les petits gens.
D'après la CFDT, les salariés sont traumatisés, plus de la moitié d'entre eux sont arrêtés ou confinés et l'entreprise a dû faire appel à de nombreux intérimaires.
Grosse inquiétude aussi de l'Organisation internationale du travail qui parle de la plus grave crise du marché de l'emploi depuis la Seconde Guerre mondiale avec 1,250 milliard de travailleurs potentiellement touchés, soit plus de 4 actifs sur 5 dans le monde. Les ministres des Finances de l'Union européenne tentent depuis hier après-midi de surmonter leurs divisions pour décider de mesures communes, sans succès pour l'instant et selon notre correspondante à Bruxelles, Angélique Boin, l'idée même d'un fonds de secours de la zone euro est remise en cause. Aux États-Unis, les plus vulnérables, ce sont les Afro-Américains. Le pays a enregistré près de 2000 décès au cours des dernières 24 heures, le bilan quotidien le plus lourd jamais enregistré dans le monde. Et dans ce contexte, la communauté afro-américaine semble donc payer un tribut particulièrement lourd. Correspondance à Washington de Grégory Phillips.
À Chicago, un peu moins d'un tiers de la population de la ville est afro-américaine. Mais sur environ 5000 malades du Covid-19 enregistrés, 52% sont africains-américains. Ils représentent aussi 68% des décès déjà enregistrés. Ces chiffres vous laissent sans voix, dit la maire Lori Lightfoot. Quand on voit ces statistiques et cette disparité, la ville doit progresser. C'est inacceptable. On doit connaître la magnitude de l'impact de ce virus sur la communauté noire. Même chose en Louisiane. 70% des morts sont afro-américains, alors qu'ils ne représentent qu'un tiers de la population de l'État. Pareil dans le Wisconsin. Les chercheurs expliquent ces résultats par le fait que les Noirs américains sont moins bien assurés que les Blancs. Les inégalités en termes de santé sont criantes, avec plus d'obésité, de diabète et de maladies cardiaques. Enfin, les Africains américains et les Latinos sont les plus nombreux à exercer des professions qui les contraignent à sortir, malgré le confinement. Livreurs, par exemple. À l'instar de la maire de Chicago, plusieurs élus réclament aujourd'hui la publication du nombre de malades et de morts en fonction de la couleur de leur peau pour mieux connaître et combattre cette réalité. Mais l'État de New York, le plus touché, refuse pour l'instant de publier ses statistiques ethniques. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
À Londres, l'état de santé de Boris Johnson reste stable. Le Premier ministre britannique est en soins intensifs, mais respire sans assistance. À Yuran, en Chine, foyer de l'épidémie, la fin du confinement pour 11 millions d'habitants après 67 jours sans sortir. Nous serons en direct de Yuran dans le journal de 8 heures. Et puis au Japon, l'état d'urgence a été décrété hier dans 7 préfectures, dont Tokyo et Osaka, au moins jusqu'au 6 mai. Enfin, c'est une voix qui compte dans le monde du cyclisme. Bernard Hinault ne s'était pas encore exprimé sur la question du maintien, du report ou de l'annulation du Tour de France. La course doit en principe débuter le 27 juin pour s'achever le 19 juillet. Le patron du Tour, Christian Prudhomme, devrait annoncer sa décision d'ici la fin du mois. Bernard Hinault, quintuple vainqueur de la Grande Boucle, envisage tous les scénarios, mais pas question pour lui de prendre le moindre risque.
Il faut attendre que cette terrible maladie soit terminée parce qu'on ne peut pas dire aux gens on va le faire au bord de la route simplement avec les coureurs. Les gens comprendraient pas que des coureurs aient le droit d'aller courir et eux ne pas aller voir la course. Donc il faut attendre.
Et vous seriez plutôt pour un report du coup ?
Il y a déjà 250 courses je crois à travers le monde qui sont annulées, donc pourquoi pas le Tour de France ? C'est possible. Ou le reculer.
Organiser le Tour de France à la fin du mois de juillet, ce serait pas choquant pour vous ?
Non, à partir du moment où il n'y a plus de confinement et qu'on est sûr qu'il n'y a plus de maladie.
Sinon, l'annuler, ce serait un crève-cœur, évidemment.
Ça serait dommage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Mais bon, vous voyez bien que le Tour d'Italie a été annulé, les Jeux Olympiques sont annulés, la Coupe d'Europe est annulée. Le Tour n'est pas exempt de ça, faut pas croire.
Bernard Hinault, interrogé par Fabrice Abgral. Alors, Tour de France ou pas Tour de France, réponse dans les prochains jours.
Merci Agnès Soubiran.